Donc on étudie encore le livre de Jonas. On a fait le chapitre 1 la semaine dernière, on fera le chapitre 2 cette semaine. Jonas, un prophète fâché avec Dieu, c'est incroyable ce personnage. Je vous laisse chercher le livre, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas. Jonas est un prophète de l'Éternel. Il a entendu la voix de Dieu, il connaît Dieu et Dieu lui dit au début du livre, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il faut dire que la cruauté des Assyriens est légendaire. Pourquoi Dieu demande-t-il à un prophète de se rendre à Ninive et d'avertir les habitants d'un jugement imminent à cause de leur méchanceté? Si Dieu avait pour seul but de juger les gens, il ne commencerait pas par les avertir, il les jugerait, un point c'est tout. Mais le fait que Dieu nous avertisse du jugement à venir montre que son projet est de nous faire grâce. Cet avertissement de Dieu, c'est un aspect magnifique de la grâce de Dieu. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais pour que cette bonne nouvelle prenne tout son sens, il faut entendre d'abord la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la condamnation est certaine pour les pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a pris notre condamnation. Celui qui se repent et croit peut être pardonné. C'est pourquoi il envoie son prophète pour annoncer d'une certaine manière la bonne nouvelle de Dieu, que Dieu veut faire grâce à celui qui se repent, même aux ennemis, aux pires ennemis d'Israël, c'est-à-dire les Ninivites. Mais notre prophète, lui, il désobéit à son Dieu. Il ne veut pas prêcher aux Ninivites à cet instant. On ne connaît pas la raison de sa désobéissance, mais on s'en doute. Au verset chapitre 1, verset 9, il dit qu'il craint l'Éternel, le Dieu des cieux et de la mer et de la terre, mais il ne craint pas de s'embarquer à l'opposé de Ninive. Comprenant que... comme on l'a vu la semaine dernière, que Dieu a fait venir une terrible tempête pour réveiller un peu Jonas. Et comprenant que cette tempête, que la désobéissance de Jonas provoque le péril, le bateau est prêt de faire naufrage, eh bien les marins lui demandent « Mais que doit-on faire ?» Et préférant plutôt mourir que d'aller à Ninive, Jonas leur dit « Jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » Pas envers lui, mais envers vous. Et c'est ce qu'ils font. On se dit « Ça y est, c'est la fin du livre. Jonas va couler. Il mérite ce que de mourir. Et Dieu dit « Eh ben, il va envoyer un autre prophète. C'est pas comme s'il manquait de prophètes. » On envoie deux à l'institut. Il en appelle autant qu'il veut et il les envoie. Comment auriez-vous réagi à la place de Dieu? Comment réagissons-nous quand quelqu'un commet une faute grave? Comment réagissons-nous envers une personne qui s'éloigne délibérément de Dieu? On trouve souvent deux mauvaises réactions. Dans la première, les personnes minimisent le péché ou rejettent carrément ce qui a été révélé. « Oh, je connais bien cette personne. Non, 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 c'est pas possible. Ça doit être de la calomnie, vous savez. De toute manière, c'est exagéré. Oh, si il va à Tarsis, il doit avoir de bonnes raisons d'y aller. » Et vous savez, dans ce cas, la personne qui a péché ne bénéficie pas de l'accompagnement dont elle a besoin et le péché poursuit son œuvre. Dans la deuxième manière de réagir, les personnes sont bouleversées par ce qui s'est passé. Elles se sentent trompées, trahies, sont en colère, elles veulent punir, elles divulguent les informations et rompent vite la relation. Dans ce cas, le péché est condamné, certes. Mais dans la honte, dans la défaite, comme si l'évangile avait échoué. Mais regardons aujourd'hui, au travers de la prière de Jonas, comment Dieu a réagi. Et je vous invite à faire la lecture. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai des vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je vous propose de regarder, petit changement. Je vous propose de regarder le cri au fond de la mer. Tout d'abord, regardez cela. Dans sa prière, Jonas décrit sa descente au fond de la mer. Elle est symbolique de celui qui s'éloigne de Dieu. Il sombre. On a vu ça déjà la semaine dernière. Quand Jonas a reçu l'ordre d'aller à Ninive, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu à Jaffo, là le port, Joppé. Et puis, il est descendu dans un bateau. Et puis, quand la tempête s'est réveillée, il est descendu en fond de cale. Et puis quand on l'a jeté par-dessus bord, il est descendu dans la mer, jusqu'aux racines des montagnes, nous dit le texte. Vous savez, c'est cela ce qui attend le désobéissant. Il descend, il descend, il descend, il sombre. La fuite de Jonas, c'était une manière d'ignorer Dieu. Il sait intellectuellement qu'il ne peut échapper à Dieu. Il sait qu'il est omniprésent, nous aussi. Mais il lui tourne le dos. En fait, il ne lui parle plus. Et ça n'a pas l'air de lui manquer. Tout l'équipage du navire prie sauf le prophète de l'Éternel. Vous savez, nos fuites peuvent être subtiles. Au regard des hommes, des marins, Jonas fait un voyage comme les autres. Il a payé son billet. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il ne fait rien de mal. Sauf qu'il est entré dans un bras de fer avec Dieu. Prophète insensé. Un bras de fer avec Dieu. Il est entré dans une résistance, dans une rébellion. Il ne parle plus à Dieu depuis qu'il a reçu son ordre de mission. Et cela, malgré la tempête, malgré les sollicitations des marins. J'aimerais vous poser cette question. Depuis quand n'avez-vous plus parlé à Dieu? Oh, je sais que vous priez chaque jour avant le repas. Je sais que vous savez faire des prières à Dieu en groupe. Elles peuvent même être assez belles. Comme les paroles de Jonas. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer, la terre. Mais ce dont je parle, c'est pas de cette prière-là. Je parle de cette intimité où vous répandez votre cœur devant Dieu. Où vous êtes sincère devant lui. Le moment où vous l'invitez à sonder votre cœur. Ce moment où il vous répond. Où vous êtes honnête devant lui, confessant vos péchés, partageant vos craintes, reconnaissant sa bonté, célébrant l'amour de Jésus-Christ pour vous, le suppliant de vous donner une vie qui ressemble davantage à la sienne, présentant les besoins de ceux qui vous entourent, vos enfants, vos collègues, vos amis, vos frères et sœurs. Depuis quand? Si cela fait longtemps, ou si vous n'avez jamais eu une telle conversation avec Dieu, vous êtes certainement en train de fuir Dieu. Les versets 3 à 8 suggèrent qu'au moment de toucher le fond, Jonas se souvient de Dieu et il crie. Il crie une prière désespérée. Verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. » Voilà sa situation, et là, il touche le fond et il crie de tout son cœur. Sa prière est simple. Elle n'est même pas donnée ici. C'est un cri. C'est « Sauve-moi !» Il est au milieu de la mer. Il est tout au fond de la mer. Il n'y a personne pour le secourir hormis le Seigneur lui-même. Si vous êtes désespéré, si vous êtes isolé, abandonné de tous les hommes, incapable de remonter à la surface, par vous-même, vous pouvez encore crier, Éternel, sauve-moi. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, 7. Il n'y a pas de condition autre pour être délivré, pour être secouru, que celle de crier à Dieu. Et lorsque tout espoir avait disparu pour Jonas, Dieu fit venir un grand poisson qui l'engloutit et le fait remonter vivant. Dieu est en train de montrer à Jonas qu'il ne veut pas se rendre à Ninive. Tu as fini par m'appeler au secours, au dernier moment. Est-ce que ceux qui sont éloignés de moi ne pourraient pas finalement crier également à moi? C'est la première leçon. La deuxième, on la trouve dans la suite. La joie au cœur d'un poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'instant où il a crié, il a été avalé. Il y a quelques miracles ici, hein. Je ne voudrais pas m'étaler parce que la Bible ne s'y étale pas non plus. Mais la taille du poisson, le bon timing. Et survivre dans un poisson 3 jours et 3 nuits sans être digéré. Mes amis, Dieu est puissant, vous savez. Et quand un homme crie à lui de tout son cœur, Dieu déploie sa puissance pour le secourir. Au verset 1, il est dit « L'Éternel fit venir un grand poisson ». Le mot ici qu'on retrouvera dans le chapitre 4, c'est vraiment fort. C'est comme s'il désignait un grand poisson. Il ordonnait à un grand poisson. Il préparait de longue date, ce grand poisson à venir là pour récupérer Jonas au fond. Dieu n'est pas pris de court. Vous savez, Dieu, il sait comment sauver. Si Jonas a fui Dieu, visiblement, il n'a jamais réussi à le semer. Dieu sait où vous en êtes. Dieu sait où vous êtes et il peut vous secourir. En fait, lorsqu'il reprend conscience, c'est pour réaliser qu'il est encore en vie. Et du coup, exaucé qu'il vient d'être, il va célébrer Dieu. Et les versets 3 à 10 sont l'expression de toute sa reconnaissance pour sa délivrance. C'est étonnant, je trouve, parce que Jonas, quand il était au fond, il n'a pas rencontré une sirène avec une bouteille d'oxygène. Et il dit « Jonas !» Et puis là, sa noyade se serait changée en baptême de plongée. Non. Il n'a pas non plus été en un instant sorti de l'eau, déposé sur le pont d'un yacht. Et là, il aurait pu retourner tranquillement à... Non, c'est pas ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été englouti dans le ventre d'un grand poisson. Enfermé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Mais là, partageant cet espace confiné et visqueux avec quelques crevettes, sans lumière, ça c'est ce qui me ferait le plus peur, je crois, il connaît la joie d'être en vie avec Dieu. Et là, il y a une chose vraiment importante que je voudrais souligner, c'est que le salut, ce n'est pas nécessairement de voir tous nos problèmes réglés, mais c'est de savoir que Dieu est avec nous. Le salut, ça n'est pas de voir tous nos problèmes réglés. C'est de savoir que Dieu est avec nous. Dieu l'a fait échapper à la mort. Lui qui ne voulait pas se lever pour prier son Dieu lorsqu'il était sur le bateau, il le fait maintenant dans le ventre d'un grand poisson. Il y a du changement chez Jonas. Et sa prière dans le ventre du poisson n'est pas « Sors-moi de là, Seigneur !» Mais c'est une louange à Dieu dans laquelle il célèbre le secours de Dieu. Merci de ce que tu ne m'as pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas laissé mourir loin de toi. Et sa prière montre que Jonas est vraiment reconnaissant de l'intervention de Dieu. Dans les versets 3, dans le verset 6, 8, il dit « L'instant où j'ai crié, tu as répondu. » Jonas y reconnaît au verset 10, et c'est la fin de son psaume, de sa prière. Le salut vient de l'Éternel. Il est en train de dire, c'est juste la grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu est l'auteur du salut. Et cette grâce est ce qui transforme nos cœurs. C'est elle qui nous pousse à vouloir accomplir nos vœux envers l'Éternel. C'est elle qui produit dans nos cœurs le désir de servir en retour, de lui offrir nos vies, de célébrer ses bontés en menant une vie de reconnaissance envers sa grâce. À propos, vous savez que ce verset, l'Éternel, le salut vient de l'Éternel, c'est le verset qui est affiché sur la façade de notre bâtiment. Je vous laisserai aller voir tout à l'heure. Mais la question c'est, pourquoi Dieu sauve au fond? Pourquoi Dieu répond à un prophète désobéissant qui au fond ne reçoit que ce qu'il mérite et même ce qu'il a voulu? La noyade. Précisément, parce que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons, mais il nous traite selon sa grâce. Et pourquoi peut-il faire cela? Pourquoi peut-il sauver Jonas? Pourquoi peut-il sauver le pécheur tout en restant juste? Mais parce qu'un jour, son fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a mené une vie parfaite d'obéissance au Père, a pris sur lui toutes nos désobéissances, a été conduit à la mort pour elle, pour toutes nos désobéissances. Et quand il a prié face à la mort pour être délivré, le ciel, lui, est resté silencieux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est pour cela qu'il peut entendre notre prière. C'est pour cela qu'il peut nous exaucer. Jésus est resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre pour que Dieu puisse nous sauver. Vous comprenez la grâce? La grâce est offerte à quelqu'un qui ne la mérite pas, par quelqu'un qui n'est pas obligé de la donner. Dieu n'est pas tenu de le faire. Il demeure parfaitement juste s'il laisse Jonas périr au fond de la mer. Il est parfaitement juste s'il nous laisse périr dans notre misère. Mais Dieu aime faire grâce. D'ailleurs, toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute de l'homme jusqu'à notre réunion dans la gloire pour l'éternité, a pour objet de révéler la grâce de Dieu. Et donc, Dieu est en train de montrer ici à Jonas la joie de la grâce, la joie d'être sauvé, la joie imméritée, la joie de cette faveur imméritée que tu connais. Le salut vient de l'Éternel. Ne pourrait-elle pas être partagée par ceux qui, effectivement, ne la méritent pas? Pas plus que toi. J'aimerais voir ce dernier point. La sincérité au milieu de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a travaillé pendant toute cette semaine au sujet de cette prière. C'est une belle prière. Elle raconte une belle histoire, celle de sa délivrance. Il fait de belles citations des psaumes. Il fait de belles références au temple à 2 reprises. Il énonce de belles vérités, verset 10, sur le salut, sur la souveraineté de Dieu, sur les vaines idoles. Et puis, il a de belles intentions. Vous avez vu, au verset 9, il dit, verset 10, pardon, « Je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce et j'accomplirai mes vœux. » Mais plus je réfléchissais à tout ça, je me dis, mais ce Jonas-là, on dirait qu'il est vraiment resté trop longtemps sous l'eau. Et il a manqué d'oxygène. Il a oublié le chapitre 1. Il a oublié le début de l'histoire. Il a oublié que tout cela arrive à cause de sa désobéissance. Dans le verset 3, il cite le psaume 18, verset 5 à 7. Écoutez ça, c'est un psaume de David. David, serviteur de l'Éternel, il adressa ce psaume lorsque Dieu l'avait délivré de la main de tous ses ennemis. Il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. » Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Waouh, c'est pareil que Jonas. Non, c'est pas pareil. Lui, il était poursuivi par des méchants hommes. Jonas, c'était le méchant prophète qui fuyait Dieu. C'est pas la même histoire. Au chapitre 130 des psaumes qui reprennent ces mêmes paroles, le psalmiste, il emploie les mêmes expressions, mais il fait mention de son péché. Il dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Et puis là, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce que Dieu pourrait entendre les supplications d'un homme pécheur? Et il dit « si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais Jonas, lui, il ne fait absolument pas mention de son péché. On n'a pas le sentiment qu'il soit repentant. Il ne prie pas pour sortir du poisson. On a le sentiment qu'il sait que Dieu l'a secouru et que désormais, il pourra retourner à Jérusalem et qu'il verra le Saint-Temple de l'Éternel. Et ne pas aller à Ninive. Un peu plus loin dans sa prière, il fait une comparaison, versets 9 et 10, un peu flatteuse pour lui, je trouve, avec les adorateurs d'idoles, hein, qui ne peuvent connaître la miséricorde de Dieu. On comprend de la part de Jonas, « Moi, je suis israélite, prophète de l'Éternel, alors Dieu me secourt. Mais ceux qui poursuivent les vaines idoles, eux, ils peuvent oublier. » Aucun espoir d'expérimenter ce genre de délivrance. On a le sentiment qu'il cherche, à la fin de sa prière, de se rassurer sur le sort des Ninivites. C'est comme s'il met une limite à la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, c'est formidable. Pour moi. Mais pour les méchants, non, ça va aller. Dans la prière de Jonas, celui qui prie pour être délivré occupe une place plus importante que Dieu lui-même, le libérateur. Sa prière, elle est assez égocentrique, en fait. On a même l'impression qu'il rend Dieu responsable de sa détresse. Dit verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Oh, bien sûr, on voit là la souveraineté de Dieu qui ordonne toute chose, qui permet toute chose. Mais quand même, Jonas, il n'est pas innocent. Verset 5, il dit « Je suis chassé loin de ton regard. » Oh, le pauvre. Et non, il fuyait loin de la face de l'Éternel. Jonas est-il bien sincère vraiment dans sa prière? Si vous connaissez la suite du livre, vous savez que le Seigneur doit encore travailler son cœur. Vous savez, il y a des années en arrière, j'ai visité et correspondu avec des prisonniers, des criminels notoires dont les histoires passent à la télévision. Des personnes emprisonnées pour 30 ans avec 23 ans de sûreté. L'un d'entre eux s'était converti à Christ après son incarcération. Connaissant l'histoire, j'ai pensé à la famille de la victime. Je me suis dit, ça doit être compliqué d'imaginer cet homme apaisé, joyeux, après avoir expérimenté le salut de Dieu. Vous savez, on aimerait que la grâce, elle ait des limites. C'est difficile d'accepter cela quand on n'a pas soi-même goûté à la grâce. Et si on y a goûté, on aimerait que la vie de cet homme soit alors définitivement transformée. On voudrait maintenant qu'il a connu la grâce de Dieu, on voudrait qu'il marche vraiment et définitivement en nouveauté de vie. Qu'il n'y ait plus de faux pas, plus de chutes. Seigneur, si les habitants de Ninive doivent se convertir, eux nos pires ennemis, alors il faudrait qu'ils deviennent nos serviteurs de tout Israël, les plus dévoués, sans faille, sans râler. On aimerait pouvoir juger et garantir la sincérité des personnes. Lorsqu'on prétend croire en Dieu et vouloir le suivre, sommes-nous sincères? Nos prières ne sont-elles pas souvent formelles? Nos engagements ne sont-ils pas pris à la légère? Avons-nous bien conscience de la grâce de Dieu envers nous? Nos prières ne sont-elles pas essentiellement tournées vers nous-mêmes et nos besoins? et trop peu vers la gloire de Dieu et vers le salut des nations? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre notre théologie confessionnelle, c'est-à-dire celle que nous disons croire, et notre théologie fonctionnelle, celle que nous pratiquons? Au fond, bref, sommes-nous sincères? Mais voyez-vous, la transformation de nos cœurs à la ressemblance de Christ, elle est progressive. Il y a dans notre parcours des rechutes. Dieu n'est pas naïf. Il sait que nous ne sommes pas fiables. Mais lui, il l'est. Et il a choisi de nous sauver de cette manière, probablement parce que c'est de cette manière que nous demeurons attachés à lui, que nous revenons à lui, que nous apprécions les richesses de sa grâce. Dieu est en train de montrer à Jonas ici cette leçon. Et toi, es-tu vraiment sincère avec moi? Et il dit, je ne sauve pas des gens sincères, mais je sauve ceux qui se réfugient dans ma grâce. Ne regarde pas à leur cœur, mais regarde au mien. Peut-être tu te dis, est-ce que j'étais vraiment sincère le jour où j'ai prié cela? Si tu regardes à ton cœur, malheureux, tu connaîtras jamais de paix. Regarde au cœur de Dieu, au Dieu qui fait grâce, au Dieu qui est plus grand que notre cœur. Ce que Dieu poursuit dans tout le livre de Jonas, c'est une compréhension de son caractère gracieux par son prophète. Ce prophète qui doit annoncer au monde comment Dieu fait grâce, il a besoin de l'expérimenter et d'avoir cette piqûre de rappel. Et c'est pourquoi avec un prophète qui est désobéissant, celui qu'on aurait dit, ok, Jonas t'es viré. Dieu dit, non, je vais aller le chercher au fond de la mer. Je vais aller le chercher au plus profond de sa misère. Dans sa désobéissance, je vais aller le chercher et je vais lui montrer encore ma grâce, ma patience, ma bonté, ma compassion, afin que lui aussi, il puisse l'annoncer. Dieu poursuit son œuvre, même si, comme nous le verrons, dans les prochains chapitres, Jonas a encore besoin d'approfondir la connaissance de sa grâce. Nous aussi, nous devons encore et encore grandir dans la grâce restauratrice de Dieu. Vous savez, cette grâce, elle ne minimise jamais la réalité du péché. Cette réalité néfaste, elle le met toujours à jour. Elle le met toujours à nu. Toujours à la lumière. Mais tout en prenant le péché au sérieux, elle croit au pouvoir de la grâce divine qui restaure, qui guérit, qui relève, qui réutilise un pécheur. Alors si vous êtes éloigné de Dieu, peut-être c'est le moment de crier à lui de tout votre cœur. Dites-lui les mots qui jaillissent de votre cœur. Sauve-moi de mon endurcissement. Sauve-moi de ma désobéissance. Sauve-moi de ma misère. Et puis, dites-lui toute votre joie, toute votre reconnaissance, parce qu'il ne vous abandonnera pas. Et puis, croyez dans cette grâce restauratrice de Dieu, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Peut-être vous êtes déçu, blessé, meurtri, trahi. Vous voudriez juste tourner la page. Dieu fait grâce. Il vous a fait grâce et il le fera encore. Pensez à cela. Il peut encore faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur mon Dieu, tu connais toutes choses. Tu connais nos cœurs parfaitement. Tu sais où nous en sommes. Personne d'entre nous n'échappe à ton regard. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui fuit, je prie qu'aujourd'hui il saisisse la folie de sa fuite et que dans un cri du cœur vers toi, il te demande de le sauver. Seigneur, immédiatement tu as englouti Jonas dans ce poisson, tu l'as sauvé, tu l'as sorti de la fosse. Seigneur, tu le feras encore pour cet homme, cette femme. Seigneur, je prie pour ceux qui ont ce sentiment d'avoir été trahis, blessés par le péché de quelqu'un. Seigneur, donne-leur d'espérer encore en ta grâce. Celle qui ne minimise jamais le péché, mais celle qui regarde à Jésus-Christ, qui a payé totalement pour toute faute. Et Seigneur, aide-nous ensemble à vivre dans cette culture de grâce pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour que cette Église brille de la grâce et que lorsqu'on est envoyé dans ce monde, on puisse attirer des pécheurs notoires, des hommes et des femmes que naturellement nous n'aimons pas, mais que tu nous portes, vers lesquels tu nous portes. Seigneur, nous te prions pour que tu renverses les barrières raciales, que tu renverses les barrières générationnelles, culturelles, et que tu sauves, et que tu continues à bâtir ton Église pour la gloire de ton nom, pour la louange de ta grâce. Amen.